Interview.
2 jours.
Donc on est là pour accueillir donc la résidence d'architecte qui démarre cette semaine. Donc la résidence d'architecte qui est un projet à la fois culturel et dont l'objet est de porter une réflexion sur les évolutions des modes de vie et de l'habitat, notamment en centre-bourg. Donc pour ça, donc on a 2 architectes, Jordan Kuipen et Corentin Hoguet, qui vont donc être animés toute cette résidence. Donc il va se dérouler sur 6 semaines, en 3 sessions. Donc là, ils sont là pour une première semaine, donc là, cette semaine du 17 au 22 juin. Après, il va y avoir un petit temps de pause, ils reviennent à nouveau pour 2 semaines. Et ensuite, pour 3 semaines, qui seront donc à la fin du mois de juin et début du mois de juillet. L'idée, c'est que donc dans un premier temps, c'est une immersion sur la ville et une rencontre avec les citoyens, avec les acteurs du territoire, pour eux, pour pouvoir prendre connaissance et rassembler un peu des documents et des connaissances sur la ville. À la suite de quoi, ils auront donc dans leur lieu de résidence, qui va être donc dans l'ancienne boucherie chez Kiki, place du marché, où là, donc, ils pourront travailler, commencer à présenter leurs travaux, et notamment dans la troisième partie de cette résidence, où là, ce lieu de résidence sera un lieu ouvert et de présentation de leur travail et d'exposition de leurs travaux.
Moi, je voudrais d'abord remercier Éric Sicard.
Madame Isabelle Bizoire, maire de Die.
Qui a eu de la persévérance sur ce dossier. Puisque, comme je le disais à Madame la directrice, on a été un peu dans la confrontée, en fait, où c'est intéressant d'avoir cette démarche en début de mandat, et où en même temps, on était un peu contraint sur le plan financier par d'autres obligations, très liées d'ailleurs à l'ancien mandat. Voilà, et donc le choix était difficile. Et merci du coup d'avoir ouvert les possibles pour que ça puisse se réaliser. Je veux remercier aussi les élus qui ont nettoyé le local de chez Kiki jeudi dernier. Il y avait quelques-uns d'entre vous qui étaient présents, donc merci. Alors, je pense qu'il y a vraiment une évolution qu'on peut remarquer à Die de pratiques, y compris de pratiques sur l'espace public où une partie de la vie privée se passe en partie sur la vie, sur l'espace public, ce qui est assez récent, me semble-t-il. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un regard là-dessus, parce que c'est important pour nous. Et puis, nous démarrons donc une procédure dont vous avez dû entendre parler, qui est Petite Ville de Demain, puisque nous sommes retenus. et du coup, il va y avoir un chef de projet, et je pense que ça sera très intéressant si nous arrivons donc à mailler toutes ces interventions pour notre centre-ville.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes en 107.5 FM et en podcast également sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, donc, nous sommes en compagnie de 2 jeunes architectes. Bonjour, à commencer Bonjour. Par Jordan Yukwanpan. Bonjour.
Bonjour.
Et de Corentin Elvoud.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes sur Die actuellement, installés à l'ancienne boutique boucherie-charcuterie chez Kiki, rue du Marché. Et vous y êtes installés pour une durée d'environ 6 semaines, de manière à produire dans une condition de résidence avec l'aval et le partenariat de la ville de Die. D'abord, vous faites aussi partie de la maison de l'architecture de l'Isère à Grenoble. On pourrait peut-être commencer par expliquer ce qu'est la maison de l'architecture.
Oui.
Alors, nous, on a candidaté la maison de l'architecture de Grenoble, elle a fait un grand travail de médiation architecturale. Ici, on est en partenariat aussi avec la Maison de l'architecture de la Drôme. Nous, on n'est pas des adhérents de cette structure, mais on a répondu à une candidature qu'a mis en place les Maisons de l'architecture et le réseau national, qui permet à des binômes d'architectes d'entrer en résidence sur certains territoires avec des problématiques particulières et d'avoir un temps à consacrer auprès des habitants pour éluder plein de questions et des moments autour de la convivialité, mais aussi autour de l'architecture.
Alors, des maisons de l'architecture, il en existe une trentaine au niveau national. Celle de l'Isère, quel est son champ d'action ou sur quel territoire opère-t-elle?
Alors, forcément, elle est implantée à Grenoble. Après, elle déborde, vu qu'on vient jusqu'à Die avec elle. Et donc, elle est assez rapprochée de la maison de la Drôme. Elle a une grande expertise, surtout sur les actions de médiation auprès des écoles primaires, donc avec beaucoup d'ateliers CM1, CM2, et beaucoup d'autres actions de type exposition, qui sont aussi dans la volonté de faire de la médiation culturelle sur l'architecture.
Et de sensibilisation sur le développement du territoire, sur les actions architecturales, sur tout le territoire de l'Isère, quoi.
Quelle sera votre implication lors de cette résidence? Une prise de conscience, une prise en compte d'un certain mode d'architecture et d'étudier aussi une certaine adaptabilité concernant l'obligation bientôt de l'isolation thermique, toutes ces choses-là. Comment vous opérez et quelle est votre optique finale de ce résultat?
Eh ben, on se concentre principalement quand même sur la typologie du centre-bourg. Donc, on est sur le bâti ancien qui rencontre plusieurs pathologies et particulièrement vis-à-vis de la précarité énergétique. Notre action, elle n'est pas dans la programmation ou dans du projet, elle est plus sur de la sensibilisation. Et donc, on va aller vers les gens et les acteurs locaux, plus pour évaluer et faire émerger toutes les possibilités qu'on a vis-à-vis de ce patrimoine qui est un peu difficile et qui ne correspond pas toujours avec les aspirations que les gens ont quand ils s'installent sur ce territoire.
Il y a également d'autres sujets que vous traitez, par exemple l'urbanisme et son mobilier, par exemple. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet de traitement que vous allez aborder ?
A priori, l'idée, c'est de se concentrer sur nos espaces domestiques et donc sur la question de l'habitat. Mais l'habitat, on le sait bien, ne se résume pas essentiellement au contour des murs de notre habitation et de notre logement. Ça s'étend également, le cadre de vie aussi, à l'environnement qui nous entoure et effectivement, pour le coup, la qualité de l'espace public. Mais je pense que pour l'instant, c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure de la résidence, c'est quelque chose qui va se définir au fur et à mesure des rencontres. Mais l'idée, c'est quand même de se centrer sur la question de l'habitat et du logement.
En parlant d'habitat, on peut remarquer, de moins pour ma part, j'ai remarqué de nombreuses maisons avec des pièces assez petites. J'imagine qu'elles permettaient ainsi d'être chauffées plus rapidement. Avec cette isolation éventuelle thermique extérieure et puis le progrès que ça amènerait, est-ce que ça permettrait aussi de réagencer ces intérieurs, de les rendre plus spacieux?
Notre parti pris est plus d'aborder donc les questions de sobriété. Pas forcément par la technique, mais par l'inventivité et les usages et les besoins qu'on rencontre des espaces. Et donc, c'est plutôt de se dire comment pallier à des espaces restreints, c'est peut-être aller chercher d'autres choses de l'autre côté de la rue. Et donc, on a des besoins d'intimité ou de convivialité. Et c'est un peu l'idée d'habitat complémentaire qu'on amène avec cette résidence qui explore cette question.
Voilà, donc notamment au travers de la mutualisation d'espaces. Donc, vous évoquiez le fait d'agrandir les espaces. À mon avis, on ne peut pas repousser les murs, à part quand effectivement on arrive à avoir deux bâtiments vides les uns à côté des autres.
Je parlais des cloisonnements intérieurs.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ouais. Mais en tout cas, c'est d'essayer d'élargir les possibles en essayant d'imaginer en dehors des murs du bâti, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi. Élargir les possibles autour de cette histoire de mutualisation d'espace, quoi.
Alors, il y aura cette résidence, on peut la résumer, elle se répartira sur 3 sessions du 17 mai, donc depuis hier, avec cette prise de contact avec les acteurs du DIWA et plus large aussi, jusqu'au 17 juillet. Donc, que sera-t-il proposé au public qui viendrait vous voir, puisque ça sera aussi un lieu ouvert?
Oui, tout à fait. Donc du coup, le local de chez Kiki, qui est réouvert, qu'on est en train d'aménager cette semaine, a pour but d'être ouvert au public dans l'idée que ce soit un lieu dans lequel on puisse venir soit consulter des livres, soit venir discuter justement autour de la question de l'habitat et plus particulièrement de la mutualisation d'espace. Donc voilà, un espace ouvert qui est ce local chez Kiki. Des interventions dans l'espace public pour essayer de récolter la parole des passants autour des problématiques qu'on a envie d'aborder. Des ateliers participatifs de réflexion collective avec, en intégrant les acteurs locaux qui ont déjà lancé des actions qui sont déjà présentes sur le territoire en fait, autour de ces notions de partage et de mutualisation, et d'essayer de s'inscrire dans la continuité de ces actions qui sont lancées et d'essayer d'impulser quelque chose de manière collective. Et à la fin de cette résidence, l'idée, ce sera d'imaginer un peu une clôture de résidence qui se fera. Donc la forme exactement, elle doit être encore définie, mais ça sera certainement, il y aura une partie d'exposition, ce sera un moment convivial, on imagine peut-être un moment de repas où on viendra, cette exposition ou mise en scène, venir partager toute la récolte qu'on a eue pendant cette résidence, qui viendra acter et peut-être, on espère, impulser une suite.
Ces 3 périodes de session seront différentes les unes des autres, avec une thématique précise?
Alors, on les a pensées de manière graduelle. C'est plutôt sur l'intensité qu'elles vont se différencier. La thématique, on essaye de rentrer de plus en plus profondément sur la thématique de l'habitat complémentaire. Mais la première, donc on l'a fait une semaine qui est un peu à pieds joints, on saute dans le territoire et dans les rencontres. Les 2 semaines d'avant, c'est plutôt pour faire des pas de côté et regarder un peu ce qui se passe. Et les 3 dernières semaines, c'est pour aller de l'avant et proposer un peu des choses.
Vous avez certainement une expérience. Est-ce que vous avez justement traité certains secteurs dans cette même démarche ?
De résidence ?
Oui.
Non, le format de résidence est une première pour nous.
Auparavant, vous opériez comment ça se passait, justement, une prise de contact avec un village ou une ville ? Est-ce que vous aviez déjà ce type de commande ?
Alors, c'est une commande qui est assez récente dans le milieu de l'architecture et qui est encore moins connue du point de vue des collectivités, qui tend à se développer. Donc nous, c'est plutôt par le biais de la Maison de l'Architecture qui fait ce travail, d'essayer derrière d'aller chercher justement d'avoir ce genre de dispositif qui est précieux avec des collectivités, mais qui pour l'instant est quand même assez marginal.
Je m'appelle Mireille Sicard, je suis architecte, je suis directrice de la Maison de l'Architecture de l'Isère à Grenoble. Et c'est la 3e résidence d'architecte dont on fait le portage. L'objectif de la Maison de l'Architecture de l'Isère, c'est une association, loi de 1901. Il y en a un certain nombre. Il y a une Maison de l'Architecture dans la Drôme qui sera partenaire en fait, de cette résidence. Il y a une trentaine de maisons d'architecture en France. Et en fait, on s'est organisé dans un réseau des maisons d'architecture qui nous permet d'avoir de temps en temps des financements nationaux pour porter certains projets et communiquer certains projets. Donc les résidences d'architecture en font partie. C'est financé en grande partie par la Caisse des dépôts et consignations et dans le cadre de leur mécénat. Et puis par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la région Auvergne-Rhône-Alpes et ensuite par des fonds propres de la Maison de l'Architecture. Donc ça nous paraissait intéressant d'élargir un peu notre territoire et de venir jusqu'à vous à Die. La dernière résidence qu'on a portée était à Saint-Marcellin. C'était un nouveau regard sur les centres-bourgs édition 1. Et là, on s'est dit, ben voilà, on change de territoire, un nouveau regard sur les centres-bourgs édition 2. Jordan et Corentin ont participé, on a lancé un appel d'offres, on a reçu 38 réponses, je le dis quand même. Ensuite, ils ont été sélectionnés, ils ont passé un jury avec 5 équipes et c'est eux qui ont été retenus. Alors, ça a été long parce que c'est vrai qu'avec le Covid, bon voilà, ça a été un peu laborieux jusqu'à aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, je suis très, très heureuse que ça démarre parce que c'était pas facile d'y arriver et je pense que ça va être vraiment très intéressant. Donc, je vous laisse présenter ce que vous allez faire, la procédure.
Mary Sicard, qui est directrice de la maison de l'architecture d'Isère, quelle est sa compétence ? Elle-même est architecte ?
Oui.
Elle est urbaniste aussi de compétences, il me semble.
Elle s'est définie architecte.
Et de là, donc, elle est de bons conseils pour vous aussi dans votre activité, dans cette aventure qui se présente ?
Alors, donc il va nous suivre de manière beaucoup plus régulière et nous accompagner dans cette expérience. Ce sera davantage Roberta Ghelli, qui, elle, est spécialisée dans la médiation de l'architecture.
Qui est docteur en sociologie et architecte. Et il y a aussi un soutien, parce que c'est une équipe de l'Ortonin, qui s'occupe de tout ce qui est de la communication et du réseau national des maisons de l'architecture qui permettent que ce soit réalisable.
Voilà.
Une question, c'est Jordan Yun Kualipan, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à être architecte ?
Qu'est-ce qui m'a amené à être architecte ? Eh bien alors, je pense que c'est l'envie de... C'est pas facile de répondre à cette question. C'est l'envie de me sentir utile, je pense, dans ma profession. C'est d'essayer de me mettre au service des gens, d'une certaine manière. Au tout début, quand j'ai fait mes études d'architecture, en réalité, c'est parce que j'avais envie de faire Architecte sans frontières et de partir à l'étranger à l'époque. Voilà, pour. Oui, au final, c'est pas vraiment là-dedans que je me représente aujourd'hui. J'ai envie de plutôt travailler sur une architecture du quotidien et locale et porter des réflexions sur comment on peut décloisonner justement ce métier de l'architecte et arriver à le rendre accessible à des gens qui ont moins de moyens et arriver à être inventif. Je pense que la volonté de pouvoir être... d'agir sur le cadre de vie des gens et les rendre à nouveau acteurs de leur propre cadre de vie, c'est quelque chose qui me parle.
Je pose la même question pour Corentin Elwood.
Ma réponse va ressembler à celle de Youn et c'est pour ça qu'on collabore aujourd'hui. Moi, c'était vraiment l'idée, avec un peu de naïveté et beaucoup d'enthousiasme, de vouloir avoir des outils pour façonner notre environnement commun et partagé. Et de pouvoir les mettre au service du coup de mes voisins et de mes cohabitants.
Lors de votre formation, j'imagine que vous avez croisé nombre d'étudiants en architecture aussi. Est-ce que vous pourriez nous dire, enfin, si c'est possible pour vous, à savoir à quelle destinée ces architectes vont, si c'est sur le bâti existant ou si c'est sur de la création de neuf?
Aujourd'hui, la rénovation est quand même ce qui va être assez central dans la pratique architecturale. La profession rencontre quand même de grandes difficultés dans sa définition. Et donc, elle est nécessairement en train de se redéfinir. Mais vous savez, il y a eu une époque où le logement ne faisait pas partie de l'architecture vis-à-vis de la profession. Après, ça a été la réhabilitation. Et... on arrive aujourd'hui où il est admis qu'on peut faire de l'architecture avec la réhabilitation. Demain, on sera peut-être sur la transmission et la médiation qui fera partie du métier de l'architecte.
Justement, le bâti, pour vous, est beaucoup plus inspirant, plus enrichissant que de créer du neuf.
Oui. Pour ma part, je pense que je suis davantage sensible au fait de faire avec le déjà là que d'être dans la construction de neuf. Mais c'est tout à fait quelque chose de... C'est tout à fait personnel. Mais je pense que ça s'inscrit aussi... Je trouve que ça a du sens dans les tendances vers lesquelles on se... Notamment en termes d'économie, d'énergie, de moyens... de se dire il y a déjà des choses qui sont en place, comment on peut faire pour arriver à impulser des choses, à révéler les des potentiels qui sont déjà existants plutôt que d'essayer de créer de nouveaux besoins.
Donc, vous prenez en compte l'économie circulaire en quelque sorte.
Oui, tout à fait.
Et justement, à l'image du bâti, hein, puisqu'on parle de celui-ci, composé et construit à l'aide de matériaux souvent trouvés localement parmi les carrières et même tout ce qui est mortier était fabriqué ici localement. Ça vous induit donc à respecter cet aspect-là de l'architecture, de ne pas vouloir imposer forcément des matériaux issus d'industries au-delà du département, par exemple.
Oui, bien sûr, surtout que ces matériaux ont une histoire et donc ils ont été éprouvés par le temps et qu'on a un retour d'expérience qui nous permet de voir en quoi ils sont positifs et ce qui nous amène d'un territoire à l'autre, d'un climat à l'autre, à résister et à porter tous les bienfaits qu'on attend d'eux. Donc on est parti un peu de ce culte moderne, on prend un peu de distance aujourd'hui, et c'est une tendance qui se retrouve vraiment dans l'architecture contemporaine, de reprendre un peu la noblesse des matériaux locaux, parce qu'en fait, d'un point de vue bioclimatique, on a énormément d'avantages à en tirer.
Ça vient à dire aussi, donc vous parliez de prise de contact avec les acteurs locaux, on peut imaginer que ce soit des entrepreneurs, j'imagine, du bâtiment, mais aussi des responsables de collectivités ou d'autorités locales, et de particuliers surtout.
Oui, alors on a différentes approches. C'est vrai qu'il y a d'un premier point les acteurs qui sont plutôt dans le réseau associatif et qui sont mobilisés sur les questions d'organisation et de partage. Donc là, on a rencontré ce matin Martine de la Corderie. On va aller voir l'espace Barral par après. Mais aussi, c'est pour ça qu'on fait des interventions dans l'espace public. C'est aussi pour rencontrer les habitants et sortir un peu de l'entre-soi qui peut vite arriver quand on aborde un sujet particulier. Et on a aussi l'intention d'aller rencontrer les acteurs économiques, donc les commerces autour de chez Kiki, mais aussi les agents immobiliers qui ont un fort levier sur la façon d'habiter le centre, ou des entreprises de construction ou de rénovation.
Et les architectes
bien sûr.
Qui agissent dans le territoire. Ouais.
Qui sont nombreux.
Oui.
Là-dessus, cette maison de l'architecture de l'Isère subvient grâce aussi à certains partenaires financiers. Il y a le réseau des maisons d'architecture au niveau national, j'imagine. La Caisse des dépôts aussi, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous faites partie aussi de l'intérêt culturel pour la région.
Oui.
Et de là, est-ce qu'il y a d'autres pistes aussi au niveau régional de ce module que vous présentez à Avdi, mais qui existerait aussi sur d'autres villes de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes?
Alors, à notre connaissance, on ne sait pas ce qu'il y a en ce moment. Avec les questions de la pandémie, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été mises en suspens.
Ouais.
Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas. Pas qui est parti, qui a commencé. Dans la France, il y a d'autres résidences là, qui sont en cours, je pense en Normandie particulièrement. Mais moi, je ne saurais pas vous en dire plus.
Cette prise de contact aussi avec la ville de Die, comment s'est-elle opérée? Elle a certainement présenté, proposé un appel d'offres et vous y avez répondu.
Alors, il n'y a pas eu d'appel d'offres officiel via la ville de Die, c'est passé par la Maison de l'Architecture qui, elle, a fait cet appel d'offres. Et je pense que c'est entre la Maison de l'Architecture et la ville de Die qu'il y a eu des choses. Après, nous, on a eu un premier contact de réunion avec les élus pour, avant d'acter le projet et pour connaître leurs attentes et un peu leur cahier des charges de manière plus informelle, qui était une vraie volonté d'avoir un travail de sensibilisation, mais aussi créer une émulsion collective, une émulation, et d'avoir un regard un peu commun sur le centre-bourg et sur d'autres manières d'habiter. Donc vu que ça s'inscrivait bien dans notre démarche, tout a bien filé.
Et puis, vous parliez en début d'émission aussi des établissements scolaires à Die. Donc,
oui.
Je suppose que ce sont les bâtiments dont la ville a les compétences, à commencer par l'école maternelle et les écoles primaires. Quelle sera la démarche auprès de celles-ci dans vos résidences, par exemple?
Et donc, donc l'idée, c'est qu'on ait justement qu'on essaye d'intégrer les enfants dans notre démarche, qui sont aussi acteurs et citoyens du territoire. Le format de la résidence, qui est uniquement sur 6 semaines, fait que malheureusement on ne pourra pas intervenir dans toutes les écoles qui sont sur place sur le territoire. Mais l'idée, c'est qu'on est déjà entré en contact avec l'école élémentaire de Chabestan et nous avons proposé des interventions dans le cadre de leur dans le cadre de l'école, c'est-à-dire des interventions pédagogiques de sensibilisation autour de notre thématique à faire avec des enfants qui seraient dans des classes de CM1 ou CM2. Voilà.
C'est à l'école que vous avez découvert le métier d'architecte ?
Bonne question.
Non.
Je ne sais pas du tout.
Alors,
moi, mon grand-père et ma grand-mère étaient architectes, donc je pense que c'est plutôt dans ma famille que j'ai découvert le métier.
Alors moi, j'avais aucune idée de ce que c'était le métier d'architecte. Je pense que c'est via des rencontres que je... Non, mais moi, à la base, je devais faire médecine. Donc rien à voir. J'avais envie de sauver des vies. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut aussi avoir d'autres métiers qui ont des approches sociales. Et je me suis orientée vers l'architecture. Mais je ne connaissais aucun architecte et j'avais aucune projection sur ce que pouvait être le métier d'architecte. D'ailleurs, même à la fin de mes études.
Il y a toujours l'équilibre en point commun de la maison des architectes. Quel est l'intérêt pour vous, justement, d'être au sein de cette maison de l'architecture ?
Alors nous, que le projet soit porté par la maison de l'architecture, c'est un vrai plus en termes d'outils et de relations directes avec les élus et avec des collectivités. Après, ce travail que la maison a fait est peut-être un peu similaire de la maison des artistes, dans le sens où on est jeune, on n'a jamais eu accès à ce genre de commandes et par un appel à candidature, où nous, on a été désigné lauréat de cette candidature, on a accès à ce genre de dispositif qui est très nouveau et assez exceptionnel.
Justement, la question m'est revenue, c'était par rapport, vous parliez du Covid. Quel a été l'impact, justement, depuis un an sur votre activité d'architecte ?
Alors moi, pour ma part, je travaille à mon compte depuis 2016 et je collabore avec des architectes, notamment un avec qui c'est pas mal répété. Et pour le coup, ça n'a pas eu d'énorme impact sur mon activité. J'ai continué à travailler en collaboration avec lui. Les projets ne sont pas vraiment suspendus. Donc voilà, je travaillais déjà de chez moi. Donc disons que ça n'a pas eu de grande évolution de mon côté.
Moi, de mon côté, qui suis en ce moment plutôt avec des missions pour une association qui s'appelle Architectes sans frontières à Marseille et qui travaille sur les conditions sanitaires dans les bidonvilles ou dans les quartiers populaires, ça a eu plutôt une accélération d'action et c'était plutôt énergivore.
Suite au Covid, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un exode urbain avec en traduction d'énormes quantités d'achats de bâtiments sur le Diois. Mmh. On l'entend chaque jour ici. Est-ce que justement il va y avoir une adaptation de ces bâtis en fonction de gens qui viennent de ville? Et c'est pour ça que je parlais aussi de ces réaménagements intérieurs de manière à libérer un peu l'espace et d'ouvrir plus. Est-ce que vous sentez une demande ou est-ce que vous avez écho d'une demande grandissante de cette nouvelle population qui se porte acquéreuse ?
Ça, effectivement, on a beaucoup vent de ce genre de tendance depuis le Covid, notamment pour le coup à Marseille, parce qu'à Grenoble, je connais très peu. Mais il y a une vague, là il y a eu une arrivée depuis le Covid, notamment beaucoup de Parisiens pour le coup, certainement d'ailleurs aussi, mais de gens du Nord qui viennent et qui s'installent à Marseille, c'est complètement bouché quoi. On connaît pas mal de gens qui sont en train de rechercher des appartements et il n'y a plus rien sur le marché quoi. Et les prix ont explosé.
Il y a un certain aspect, c'est qu'on entend aussi énormément de logements. On peut en parler même par millions de logements vacants, sans occupation. Ouais. Et Marseille doit certainement en faire partie, même à Die, hein, et je pense que c'est très généralisé sur toute la France. Pour vous, qu'est-ce que vous voyez en perspective pour tous ces bâtiments vacants dont les propriétaires n'ont pas envie forcément de gérer parce que c'est beaucoup de paperasse, peut-être. Et puis de se faire ponctionner financièrement par l'État, ce sont peut-être des freins aussi. Alors cette vente permet aussi pas mal de transfert de biens. Est-ce que pour vous ça amène une restructuration même d'une ville?
Moi je vois deux choses dans la vacance. Il y a la vacance long terme donc, qui est dramatique face à la crise du logement qu'on a d'un point de vue national, et du coup le fait que les propriétés changent de main est plutôt positif parce que ça veut dire qu'il y a la vie qui revient dans des endroits qui peuvent être désertés. Après il y a la vacance aussi temporaire avec du coup qui est bien dans le contexte ici avec le tourisme et donc qui est plutôt une opportunité face au travail saisonnier, et c'est quelque chose qu'on nous a fait revenir deux trois fois pendant nos entretiens et qui peuvent se regarder en face, en fait, et il y a sûrement quelque chose à faire là-dedans, avec sûrement un petit déplacement culturel à faire dans nos rapports à nos propriétés.
Justement, l'emploi saisonnier est aussi porteur de populations et qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'installer à Die. Déjà parce qu'elles sont itinérantes, mais il n'existe pas vraiment de lieu, à part les campings, il n'existe pas vraiment de lieu qui permette de se sentir vraiment dans un chez-soi. Mmh. Et ça, c'est une perspective que la ville de Die souhaiterait aussi peut-être lancer sur le Diwa, par exemple.
En tout cas, c'est une thématique effectivement qu'on a abordée pendant nos réunions. Donc je pense que oui, c'est quelque chose que nous aussi, on doit, je pense, intégrer à notre réflexion. Et ça s'inscrit d'ailleurs tout à fait dans cette histoire, dans notre sujet d'habitat complémentaire qui s'appuyait beaucoup autour de la vacance, justement, de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces qui sont quand même disponibles et dont on ne fait rien, mais qui on ne fait rien effectivement aussi parce que là, il y a la question du propriétaire, que ça coûte de l'argent de rénover, etc. Mais il y a aussi le fait que... ça donne pas nécessairement envie, ce bâti ancien qui est sombre, qui effectivement ce sont des petits espaces, il n'y a pas forcément d'espace extérieur attenant, etc. Et donc tout ça, toutes ces thématiques de logements saisonniers, etc., on se dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'imaginer quelque chose? Ben, par exemple, je sais pas, on évoquait à un moment donné de se dire, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'il y ait des chambres ou des petits appartements qui appartiennent à un petit groupe de personnes ou pas, peut-être qu'ils sont pas propriétaires, mais peut-être qu'on pourrait parler de propriété d'usage et plus de propriétaire. C'est-à-dire qu'on est propriétaire à partir du moment où on occupe l'espace. Et que cet espace, ça puisse parfois devenir une chambre d'amis. Donc justement, cette espèce d'extension de chez nous. On n'a pas la place d'accueillir chez nous dans le mur de nos logements, mais on a cette chambre qui est là. On peut accueillir des gens dans cette chambre à tour de rôle, entre un petit groupe de personnes. Et cet espace pourrait aussi, du coup, pour le coup, devenir des logements d'accueil saisonniers, temporaires. Pourquoi pas ?
Une sorte de propriété à la carte ?
Exactement, ouais. Ouais, y a une idée comme ça. Après, il y a plein de modalités différentes dans la copropriété, dans la propriété, dans la dissociation de la propriété foncière ou immobilière. Enfin, il y a plein de montages et plein d'acteurs ont beaucoup d'outils là-dessus. Mais l'idée, c'est de se dire que l'habitat peut évoluer et nos envies aussi. Le départ d'enfants qui vont étudier fait qu'il y a des chambres qui restent là et qui restent à chauffer, à entretenir. Ou pour des grands-parents, avoir de la place pour leurs petits-enfants représente aussi... un espace manquant ou de trop la plupart du temps.
L'heure approche de sa fin pour vous, puisque vous êtes très demandé et que vous courez au rendez-vous suivant. Et donc, on peut vous retrouver donc, du 17 mai au 17 juillet, globalement, chez Kiki, 28 places du marché. Et donc, pour communiquer également, vous avez ce blog actuellement, dont je mettrai l'adresse sur le site de la page du site de cette émission. Et ça permettra de connaître un petit peu le quotidien, une sorte de journal aussi.
Oui, tout à fait. Ça sera un journal, un peu un journal de bord qui tient au courant un peu de toutes nos rencontres et de toutes les actions qu'on va mettre en place. Et on mettra aussi justement à jour tous les événements qu'on va organiser, donc avec un calendrier un peu précis qui s'organisera au fur et à mesure. Et on communiquera également aussi par affichage, flyer, etc. Dans la rue, si jamais... Et on a oublié de préciser qu'on avait un petit événement d'inauguration de l'ouverture de chez Kiki d'ici la fin de la semaine, qui se tiendra vendredi dans la soirée ou samedi entre midi et deux.
Donc je vous remercie Jordan Yun Kwaipan, pardon, et Corentin Helwood d'être venus nous parler de cette résidence d'architecture Adi avec ce titre Un nouveau regard sur les centres-bourgs. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Does anyone ever say to you, sounds like someone has a case of the Mondays?
No. No, man. Shit, no, man. I believe you get your ass kicked saying something like that, man.